BFM Business. L'émission 100% placement. BFM Patrimoine. Vincent Tourelle.
Il est 10h sur BFM Business. Bonjour à toutes et à tous. Ravi de vous retrouver pour BFM Patrimoine. On est ensemble jusqu'à midi avec nos meilleurs experts pour vous éclairer dans vos choix d'investissement. Dans cette première heure d'émission, on va parler immobilier, bien entendu, avec aujourd'hui le baromètre Opinion System de la satisfaction client dans l'immobilier. Dans la deuxième partie de cette émission à partir de 11h, eh bien, ce sera regard croisé pour passer en vue toute l'actualité des marchés. Et puis, on répondra bien sûr à toutes vos questions. Mais sans plus tarder, direction Euronext où on en retrouve Antoine Larigauderi. Bonjour Antoine. On hésite ?
Bonjour Vincent.
On hésite aujourd'hui, mais on pointe en territoire positif depuis quelques instants.
Oui, on hésite, c'est vrai, mais on semble un petit peu happé par nos derniers plus hauts annuels. Ils datent de la séance d'hier, ils datent d'il n'y a pas longtemps. 7117 points, pour l'instant on est une dizaine de points en dessous à 7106. Une hausse de 0,15% alors que le tout début de séance annonçait beaucoup plus indécis, voire même en légère baisse. On sent que le CAC 40, de toute manière, depuis qu'il a atteint la zone où il peut prétendre à signer de nouveaux records absolus, il date d'il n'y a pas si longtemps, de quasiment un an, du côté des 7344 points. Depuis que l'objectif se rapproche, on a un peu plus de mal à avancer que d'habitude. Donc, il y a quelques petites phases haussières, et notamment cette semaine a été très positive avec l'influx des bons résultats d'entreprise, des bonnes surprises qu'on a eues à ce niveau-là. Mais depuis, on sent que le CAC 40 a beaucoup plus besoin de temporiser juste un jour après, à court terme, et que la montée va être vraiment très, très graduelle, point par point, même si la dynamique reste sensible. Depuis le début de l'année, on approche des 10% de gains annuels, de toute manière. Donc, c'est une barrière psychologique pour bon nombre de gérants et d'économistes qui ont des objectifs précis sur les indices. Donc là, le CAC 40, 7105 points, à noter du vert pâle aussi, du côté de l'Eurostock 50, plus 0,09%. Et on est à plus 0,11% sur le DAX à Francfort. Alors, à noter les valeurs les plus actives du jour, on a parmi les baisses quand même une majorité de valeurs à teneur technologique. Et il faut dire que tout le compartiment avait été bien actif hier, soutenu par les très bons résultats d'STMicro. STMicro qui a gagné quasiment 9% en clôture. Et puis là, hier après la clôture de Wall Street, il y a quand même eu les résultats d'Intel qui étaient d'un bien moins bon tonneau, avec des perspectives et des résultats fondamentaux qui ont déçu. Donc du coup, il y a des prises de bénéfices sur l'ensemble du secteur. On a Worldline qui recule de 0,9% à 40,50€. On a Dassault Systèmes, moins 1,3% à 33,96€. Et puis STMicro Electronics qui est en baisse aussi, avec des prises de profit après la très belle hausse d'hier. Notez quelques coup de faiblesse assez marqué, notamment Score, qui perd 7,5% à 22,03€. On a Rémy Cointreau aussi mal orienté, moins 2,5% à 170,30€. Nous, on est revenu sur des valeurs alors plutôt défensives. En hausse, sur le CAC 40, on a Saint-Gobain qui gagne 1,5% à 53,44€. On a Danone, plus 1,19 à 49,79€. Puis des valeurs un petit peu plus cyclique, ArcelorMittal plus 1,2% à 29,59€. On a Renault plus 0,9% à 38,18€. Et puis le luxe qui continue à la hausse, LVMH dont on a beaucoup parlé ce matin, gagne 0,7% à 807€. Mais c'est Kering qui signe la plus forte hausse du secteur à plus 0,9%, 552,80€. À noter aussi la très belle hausse de JC Deco qui gagne 5,3% à 22,32€. Et puis Solution 30 qui s'envole de 19,9% à 2,27€, plus forte hausse du SBF 120. Le CAC plus 0,09, on est à 7102 points. L'euro 1$ 0,890, ça y est, on se rapproche à nouveau d'un 0,9. Et puis attention au Brent, au baril de Brent de mer du Nord sur les marchés pétroliers, on se rapproche à nouveau là des 89$ à 87,80$ pour le moment.
Merci beaucoup Antoine Larigauderi en direct d'Euronext comme tous les matins sur BFM Business. Avant de retrouver Pépite Zépipo, sans plus tarder, on fait le point sur l'essentiel de l'info éco à 10h05.
BFM Business, l'info éco, Stéphanie Colo.
Et à la une, ce sont les résultats stratosphériques de LVMH. 14 milliards d'euros de bénéfices dopés par l'Europe et les États-Unis. 79 milliards d'euros de chiffre d'affaires en hausse de 23%. LVMH signe une année record. Quasiment toutes les activités progressent, tirées toujours par la mode et la maroquinerie. En revanche, la Chine restera un marché compliqué encore pendant quelques mois, prévient le groupe. Le titre recule de près d'1,5% ce matin. Autre résultat, ceux de Rémy Cointreau qui publie un chiffre chiffre d'affaires en recul de 6% à 414 millions d'euros au troisième trimestre. C'est conforme aux attentes. C'est lié à une normalisation de la demande aux États-Unis après deux années exceptionnelles. Et justement, aux États-Unis, justement, Intel déçoit au quatrième trimestre avec une perte nette de 700 millions de dollars. C'est bien plus que les 80 millions qu'attendaient les analystes. Intel a subi un nouveau coup de frein sur le marché du PC et du stockage. Et pour 2023, le groupe se montre très prudent. H&M annonce un bénéfice net en chute de 68% en 2022 et une perte inattendue au quatrième trimestre de 77 millions d'euros. Le groupe est pénalisé par son retrait de Russie, la hausse des matières premières et le prix du fret. En France, Renault propose une hausse de 7,5% de son budget d'augmentation des salaires pour cette année selon Reuters. Ça représente une augmentation de 110 euros net par mois. Les deux tiers des effectifs sont concernés. Ce serait la plus forte progression depuis 1992. C'est un appel inédit à la grève chez Ubisoft. Les syndicats appellent les 6000 salariés français à cesser le travail cet après-midi. C'est pour dénoncer les pratiques managériales de la direction, une première depuis la création du groupe, c'était en 1986. Cette bonne nouvelle pour l'Espagne, la croissance atteint 5,5% en 2022, tirée par la consommation des ménages et une forte hausse des investissements. Et c'est nettement supérieur aux attentes et aux prévisions du gouvernement qui anticipait 4,4% de croissance. Et puis dans l'aérien, la reprise du trafic vers la Chine se confirme. Air France prévoit de desservir Pékin, Shanghai et Hong Kong une fois par jour à partir du 1er juillet. Une nette remontée en cadence par rapport à aujourd'hui avec des vols hebdomadaires. Notez que Edwige Chevrillon reçoit Augustin de Romanet, le PDG du groupe Aéroport de Paris, dans la nouvelle émission de BFM Business, nouvelle mensuelle grand format. Et ça démarre ce samedi à partir de 20h sur BFM Business.
Merci beaucoup Stéphanie Collot. On vous retrouve tout à l'heure à 11h pour un nouveau point sur l'actualité éco.
BFM Business, BFM Patrimoine, Pépites et Pipeaux.
Et notre rendez-vous Pépites et Pipeaux aujourd'hui, c'est avec Pierre Laurent qui est en ligne avec nous. Bonjour Pierre.
Bonjour Vincent.
Vous êtes analyste financier chez Auroland. Aujourd'hui, votre pépite, c'est Osmosis. Que fait Osmosis et pourquoi ce choix ?
Absolument. Alors Osmosis, c'est le spécialiste de la transformation numérique des campings et des hébergements de plein air en France. Le titre était une des trois valeurs favorites de Roland en 2022, a progressé de près de 25% sur l'année et est à nouveau dans notre top pour 2023. Alors avant d'expliquer pourquoi, je vais revenir très rapidement sur le métier du groupe. Osmosis, c'est une petite société rentable située dans l'Hérault qui fournit à la fois des bornes Wi-Fi et des services connectés, principalement aux établissements que je viens de citer. En 15 ans, le groupe a développé un parc qui couvre plus de 300 000 emplacements répartis sur un peu plus de 2000 sites et générant plus de 10 millions d'euros de chiffre d'affaires. Alors, il y a trois éléments à mettre en valeur sur le titre, d'après nous. Le premier, c'est le fait qu'Osmosis s'est positionné sur un marché qui connaît deux tendances de croissance structurelle, le besoin de modernisation et de digitalisation de beaucoup de campings, mais aussi la nécessité de les rendre beaucoup plus écologiques et durables. Osmosis est le partenaire finalement incontournable pour réussir cette transition, parce que la société a une offre très pertinente, en plus de fournir un Wi-Fi performant et abordable à ses exploitants et aux vacanciers. Elle propose aussi une gamme de services qui couvre tous les besoins, allant du bracelet connecté, qui permet par exemple de payer, d'ouvrir son mobile home, etc., au logiciel de gestion et d'optimisation de la performance énergétique du site. Deuxième élément, le modèle économique de l'entreprise s'est progressivement transformé avec le temps pour être aujourd'hui très pérenne. Alors dans le passé, le chiffre d'affaires pouvait être un peu fluctuant. Il était majoritairement corrélé au niveau de fréquentation des établissements. C'est plus du tout le cas. Le mode de facturation a changé et offre à présent beaucoup plus de visibilité à travers une plus grande récurrence. Troisième et finalement dernier point, les fondamentaux économiques du groupe sont aussi solides que ses perspectives. La société a connu une période un peu difficile suite à son introduction en 2017. Et depuis, en fait, elle fait que délivrer. Osmosis a affiché une croissance moyenne de son chiffre d'affaires supérieure à 20% sur les deux dernières années. On prévoit plus 25% sur 2022-2023. Et au-delà de ça, la société gagne de l'argent avec une marge opérationnelle qui devrait approcher les 15% à terme. On pense donc que cette croissance rentable va se poursuivre avec en ligne de mire un doublement du chiffre d'affaires à horizon 2025.
On est à environ 10,70 euros ce matin sur Osmosis. Bon, si c'est une pépite, j'imagine que vous êtes à l'achat. Qu'est-ce qu'on peut en attendre
en termes de prix? Exactement, on peut en attendre prix, ouais. Pour le moment 11,50 euros. Le cours a pris 45% en un an. Et c'est vrai qu'il est maintenant assez proche de mon objectif, mais je pense que tout le potentiel de l'entreprise à plus long terme n'est pas encore intégré dans cet objectif de cours.
Objectif 11,50 € pour Osmosis, nous dit Pierre Laurent. Merci beaucoup Pierre d'avoir été avec nous ce matin pour cette pépite. Analyste financier chez Euroland.
BFM Business, BFM Patrimoine, le point macro.
Et pour notre point macro, on retrouve Patrice Gautry en duplex. Bonjour Patrice.
Bonjour.
Chef économiste d'Union Bancaire Privée, au programme aujourd'hui l'économie américaine, croissance, inflation, c'est le chiffre du jour que l'on attend cet après-midi. On va parler du coup de la Fed, on va parler de la BCE aussi, hein, puisque ce sont les deux grands rendez-vous de la semaine prochaine. On commence donc avec la croissance américaine, c'est quand même un chiffre qui a marqué cette semaine. Ralentissement moins marqué qu'attendu du PIB au quatrième trimestre. Qu'est-ce que vous en retenez?
Oui, alors la situation est un peu complexe parce qu'effectivement le PIB, donc 2,9%, c'est une forte progression. Et cette forte progression, elle est due, alors ça c'est le côté positif, à une bonne progression de la consommation des services. Donc ça a soutenu la conjoncture. Et le côté, je dirais, un peu plus négatif de cette statistique, c'est que une majeure partie en fait des 2,9 provient d'une très forte hausse reconstitution donc des stocks, d'une très forte baisse des importations, donc une situation peut-être un petit peu anormale, et aussi d'une consommation publique qui était encore assez forte alors qu'il n'y avait pas, je dirais, de forte relance en termes d'effet d'annonce du côté du budget américain. Donc en fait, on a sur les 2,9% de progression annualisée, on a plus de 2% en définitive qui sont liés à des éléments exceptionnels. Ce qui veut dire que quand on regarde l'investissement, quand on regarde la consommation des biens, eh bien, on est plutôt sur une trajectoire de ralentissement. Donc, à la fois, on voit bien qu'il y a un contraste entre des secteurs, donc, qui se tiennent bien au sein de l'économie américaine, mais des secteurs aussi qui sont entrés en ralentissement et ralentissement significatif. Et le pire, en fait, est vu sur le secteur immobilier, puisque là, il y a une deuxième, une troisième, même forte chute de l'investissement résidentiel. Donc, ces statistiques, effectivement, cet après-midi, vont se traduire, puisque là, on a l'évolution des revenus au mois de décembre. Donc, je dirais, ça va conforter l'évolution que l'on a déjà constatée dans le PIB. Ces chiffres sont déjà inclus dans le PIB qui a été publié hier, donc des revenus qui progressent fortement, une consommation qui va être contrastée entre un certain moins d'achats de biens manufacturés, mais plus de services, et puis au total, donc une inflation, donc c'est l'indicateur qu'aime bien la Fed, donc le core PCE, eh bien lui, en fait, devrait plutôt ralentir, donc on attend des chiffres, et effectivement, qui reviennent progressivement en dessous de 5%, ce qui est plutôt donc un confort pour la Fed. Mais effectivement, contraste entre une activité qui est en train très forte, des ralentissements peut-être là où on n'aimerait pas les voir, alors que d'autres secteurs et le marché de l'emploi, on l'a vu hier avec les statistiques hebdomadaires de chômage.
Oui, voilà, j'allais vous le dire, ouais, ça reste robuste. Ouais. Hein. Donc, quelle attitude de la Fed dans ce contexte, la Fed qui se réunit la semaine prochaine?
Oui, alors, le ralentissement des hausses de taux devrait se poursuivre, donc on devrait passer à un rythme de 25 points de base, mais je pense que le ton, la tonalité qui va être donnée par la conférence de presse de M. Powell risque d'être encore du côté restrictif, d'être encore du côté faucon, c'est-à-dire il faut certainement encore d'autres hausses de taux, et on a vu que la tonalité des communications, en fait, passées de la Banque centrale américaine était plutôt en faveur de la poursuite. Alors, la question se posera, est-ce qu'il faut commencer à envisager une pause? Ça n'est pas le scénario que nous retenons, donc on devrait aller vers les 5 et 5,25 % sur les taux d'intérêt directeurs américains.
Ah oui, quand même, 5,25%. Du côté européen, est-ce qu'on peut s'attendre aussi à des bonnes surprises? Et du coup, que peut-on attendre de la BCE, toujours la semaine prochaine?
Alors, côté économique, est-ce qu'on peut avoir les mêmes bonnes surprises pour effectivement le quatrième trimestre? Alors, ce matin, on a eu le PIB espagnol, 0,2% de progression. Là aussi, c'est une bonne nouvelle en termes global, mais par contre, quand on regarde le détail, c'est un fort ralentissement, une contraction même de la consommation, contraction de l'investissement privé. Et en fait, ce bon résultat, ou ce relatif bon résultat, est obtenu là aussi par moins d'importations. Donc une contribution du commerce extérieur un petit peu plus positive. Donc au total, sur, et ça va être la publication donc la semaine prochaine, on devra avoir une activité européenne au quatrième trimestre qui est légèrement négative, voire flat, c'est-à-dire en progression zéro le PIB d'un trimestre sur l'autre. Mais effectivement, ça montre aussi les fragilités du côté de la demande domestique à ce tournant de l'année et avec encore des contraintes. Côté BCE, la communication a été claire, c'est 50 points de base. On va continuer à monter, le travail n'est pas fini et il y a encore du travail du côté de l'inflation. Inflation d'ailleurs qui sera publiée la semaine prochaine. On s'attend là aussi à un ralentissement plutôt vers en dessous des 9%, mais c'est l'inflation cœur qui gêne encore la Banque Centrale Européenne. Donc la tonalité devrait rester beaucoup plus dure, beaucoup plus restrictive que effectivement la politique monétaire américaine.
Pour ce qui est donc de ce que l'on attend la semaine prochaine, donc la réunion de la BCE, celle de la Fed, bien entendu, d'autres rendez-vous que vous regarderez de près.
Oui, tout à fait.
Ça a déjà capté pas mal d'attention, ça. Hein.
L'inflation européenne, oui, il y a beaucoup de choses la semaine prochaine. Ouais. Hein. Il y a beaucoup de travail. L'inflation européenne, on vient d'en parler. On aura bien entendu les indicateurs PMI et ISM, donc aux États-Unis, et puis effectivement une statistique importante, les fameuses données sur l'emploi. Donc on attend des créations qui ralentissent aux États-Unis à 175 000 et le consensus va surveiller l'évolution des salaires. Ceci était en léger ralentissement donc les mois passés et on va voir si cette tendance continue, ce qui pourrait effectivement rassurer la Fed, ou au contraire, s'il y a encore, compte tenu des bons chiffres que l'on a récemment, s'il y a encore des tensions très fortes sur le marché de l'emploi et donc sur les salaires américains.
Bien, on parlera de tout ça avec vous. Merci beaucoup Patrice Gautry d'avoir été avec nous ce matin encore, chef économiste d'Union Bancaire Privée.
BFM Business, BFM Patrimoine, la vie IMO.
Et oui, la vie IMO, c'est avec Marie Cœur de Roy, bien sûr. Bonjour Marie.
Bonjour Vincent.
Et notre invité ce matin, Jean-David Lépineux, bonjour.
Bonjour Vincent.
Vous êtes le fondateur d'Opinion System, je le dis bien.
C'est bien dit.
On va vous interroger sur ce baromètre de la satisfaction des Français dans l'immobilier. Quelle confiance leur inspire leur agent immobilier? C'est la 7e édition. Quelle est la relation qu'entretiennent les Français avec leur agent immobilier?
Mais j'ai envie de vous dire qu'elle est plutôt bonne par rapport à toute l'image qu'on a pu avoir sur les 10 dernières années.
Ah bon, ils avaient une mauvaise image.
Il y avait une mauvaise image, ouais. sur la dernière décennie.
Qu'est-ce qui leur collait à la peau aux agents immobiliers?
Eh bien, en fait, de ne pas rappeler le service. Ouais. Le service était mal perçu. Mmh. Et depuis maintenant 5 ans, on s'aperçoit d'une véritable évolution, une prise de conscience, en tout cas des particuliers.
Parce qu'il y a vraiment, enfin, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'effectivement, c'est pas la première édition. Donc, vous avez pu voir cette évolution. Et effectivement, on a beaucoup dit, et je me souviens, moi, la première à dire que les agents immobiliers, comme les journalistes d'ailleurs, il y avait toujours une espèce de suspicion des clients de se dire, est-ce qu'il est en train de se foutre de moi, en fait, à un moment donné, parce que c'était toujours le sujet. Et là, tout l'enjeu, c'était de justifier leur boulot, d'essayer de dire, mais en fait, je travaille. Est-ce que ça, justement, ça a changé? Et pourquoi ça a changé, en fait?
Ben, vous savez, Marie, il y a une chose que l'on peut voir, en tout cas, qui est factuelle. C'est les parts de marché de particulier à particulier. Elles se sont effondrées sur les 10 dernières années. Il y a plus de 10 ans, les particuliers détenaient plus de 50% de parts de marché. Et aujourd'hui, ils en détiennent moins de 30%. Tout le reste est détenu par la profession immobilière. Donc j'ai envie de vous dire qu'ils doivent y trouver certainement un intérêt. L'intérêt, là où on le voit, c'est que ce qui n'a pas changé, c'est que les particuliers commencent toujours leur démarche sur Internet. Ils vont toujours rechercher sur Internet et commencent leur démarche seuls. Donc ils démarrent seuls, ils n'ont pas encore le réflexe de choisir un agent immobilier, mais par contre, ils ont la démarche seule finie très régulièrement auprès d'un agent immobilier pour concrétiser la transaction.
Donc. Et du coup, ils sont fidèles à l'agent immobilier après, ou alors on démarre toujours seul?
Alors, ça, c'est tout le problème de ce qu'on appelle la relation. D'ailleurs, c'est ce qu'on a pu voir sur ces dernières années. Et sur ce dernier baromètre, ce qui était très intéressant, c'est de voir que les Français qui ont été interrogés demandent plus de relations avec leur agent immobilier. Alors, vous voyez, en fait, parce qu'on est passé dans le digital, on a parlé beaucoup, beaucoup de digital, et le digital semble avoir distancé les professionnels avec leurs clients. Et c'est un retour au rapport physique que demandent les clients.
C'est mais c'est quoi? C'est le confinement? C'est le Covid? C'est
oui,
quoi
voilà.
La raison?
Ouais.
Alors la raison, c'est que je pense que maintenant, vous savez, ce qui est hyper intéressant, on dit toujours que les grandes relations sont liées de plein de petites attentions. Et ces petites attentions, c'est ce qui permet de voir, alors les particuliers aujourd'hui ont un peu peur parce qu'on entend de chutes de prix, on entend plein de choses. Donc on a envie finalement d'avoir une relation avec un professionnel, on a envie de savoir ce qu'il va se passer et on a envie de discuter avec lui et non plus de recevoir un email comme on reçoit aujourd'hui dans tous les CRM, on met dans des bases de données, ouais, où il n'y a plus de communication.
Là, vous parlez des vendeurs là ou des acheteurs? D'un côté comme de l'autre.
On parle des deux côtés, hein, puisque l'enquête est faite sur les deux types de personnes.
Mais du coup, justement, c'est ça qui est assez intéressant, c'est que vous dites on a deux nouveaux besoins parce qu'on est dans une espèce de climat d'incertitude. Est-ce que ça veut dire que finalement, ce métier d'agent immobilier, il n'a de sens qu'au moment où c'est un peu le bazar, quoi. Ou alors, non. Parce que c'est ça, en fait, on se pose la question. C'est vrai que c'est plus rassurant de passer par un vrai professionnel au moment où on ne sait pas ce qui se passe sur les crédits, sur les taux, sur les prix, sur les marges de négociation, etc. Mais si finalement, on était dans un marché tout à fait apaisé, serein, sans incertitude, est-ce qu'on aurait tout autant besoin des agents immobiliers aujourd'hui?
La réponse, je crois qu'on l'a. La réponse, en fait, on était dans un marché qui était exceptionnel, qui a dépassé les 1 200 000 transactions historiques. Donc, on pouvait amplement se passer d'un agent immobilier. Et pourtant, c'est dans ce marché que leurs parts de marché ont explosé.
Bon, alors je vais finir par croire que vous êtes payé par les agents. Donc, il va falloir que vous puissiez me dire qu'est-ce qui pêche encore? Parce qu'on imagine que ce n'est pas encore tout à fait parfait.
Non, ce n'est pas parfait. Non, alors, il y a beaucoup de choses qui pêchent. Donc, je ne suis pas payé par les agents, hein, pour répondre à votre question.
Ce n'est pas une question, hein, c'est voilà. Un sous-entendu voilà. Bien dégoûtant.
Pas du tout. Mais non, ce qui pêche encore, c'est la relation. Voilà, la relation humaine pêche énormément en termes d'accompagnement. Puisque aujourd'hui, en fait, les gens ont besoin d'un véritable accompagnement, ils s'estiment que quand ils payent un service, il n'y a pas assez de communication. Vous voyez, par exemple, entre le compromis de vente et l'acte notarié, oui, c'est quelque chose que nous n'arriverons pas à résoudre pour l'instant. C'est qu'une fois que le compromis de vente est signé, l'agent immobilier, part d'un principe, c'est que son travail est terminé, ils envoient à l'acte notarié, donc ça se passe entre le clerc et les clients, et les clients remettent toute cette non-communication sur le dos de l'agent immobilier. Donc c'est ça qui se passe aujourd'hui. Donc ils demandent de plus en plus de communication et c'est ce qu'ils ne ressentent pas. Voilà, donc ça c'est vraiment quelque chose qui est important et c'est là où le bât blesse et c'est pour ça que les honoraires parfois sont incompris.
Ouais, et alors justement j'allais vous dire, j'ai vu, alors ça va faire que 6-7 ans que je traite de ce secteur de l'immobilier, mais c'est vrai que j'ai vu une évolution du côté des grands réseaux. C'est-à-dire que c'est vrai qu'ils ont essayé de faire preuve de plus de transparence pour justifier leurs honoraires. Est-ce que ça, vous avez aussi constater cette perception-là de la part des clients, qu'ils soient acheteurs ou vendeurs, se dire maintenant je comprends mieux pourquoi je paye, parce qu'il est arrivé quand même, mais je l'ai connu, je pense que je ne suis pas la seule à l'avoir connu. À un moment on se dit mais pourquoi il prend 5% là, il n'a rien fait,
c'est ça,
il
va limite laisser les clés pour aller. Le taux généralement constaté.
Oui, c'est aux alentours de 5%. Oui.
Et du coup, est-ce qu'aujourd'hui vous avez le sentiment que que les réseaux ont fait des efforts là-dessus, enfin pour le coup, moi personnellement, mais c'est que mon avis, je trouve que oui, mais est-ce que les gens perçoivent ça aussi?
Je crois que tout le monde a fait des efforts là-dessus. Réseau, syndicat, FNAM, qui a beaucoup porté la chose que vous relatez sur les honoraires. En tout cas, ça a vraiment été porté. Ils ont bien compris, les gens commencent à comprendre et à découper les services, mais le service, vous savez, ça reste un métier d'homme. Et dans ce métier d'homme, vous pouvez justifier tout ce que vous avez fait. Si vous le justifiez uniquement en envoyant de l'information au travers d'un logiciel et que vous recevez, vous, une information par email, vous n'allez pas la lire de la même façon qu'une personne.
Donc vous êtes en train de nous dire que tous les nouveaux venus sur l'immobilier en nous promettant des
ceux qui ubérisent, là.
Des honoraires fixes.
Est-ce que ça prend dans ce secteur? Est-ce que ça se prête à l'ubérisation?
Est-ce que finalement ça veut dire qu'ils sont tous voués à l'échec?
Non, alors, tout ce que vous parlez, si vous parlez en fait des nouveaux acteurs qui arrivent. Alors déjà, les acteurs, je ne sais pas si on a le droit.
Est-ce qu'ils arrivent à prendre des parts de marché significatives?
Si on cite, par exemple, les agences de papa, puisqu'en fait, on fait souvent référence à ces acteurs, je n'en entends plus parler. Aujourd'hui, on a eu énormément de communication, on n'entend plus parler. Alors, je suis pas bien pour juger, parce que je suis pas là pour juger qui que ce soit. Nous, on ne fait qu'avec 1 million d'avis clients que nous avons réceptionnés l'année dernière, on a passé le cap du million. On ne peut pas voir, en tout cas, l'évolution de ce genre de système. Voilà. On ne l'a jamais constaté.
Et ça veut dire aussi que typiquement, on va continuer à avoir des agences qui vont avoir pignon sur rue, parce qu'il y a un moment donné où effectivement la digitalisation, elle a amené aussi beaucoup de bouleversements sur différents métiers et celui des professionnels.
Eux-mêmes se digitalisent.
Ouais. Alors là, vous mettez un point qui est très intéressant sur l'enquête. Vous savez que la première recherche d'un particulier pour rechercher son agent immobilier, c'est d'abord Internet. D'accord ? Donc il va sur Internet, il tombe sur les portails d'annonces parce qu'on ne recherche pas encore un agent immobilier, ce que j'expliquais tout à l'heure, on recherche un bien.
Oui. Ouais.
Et donc quand on recherche un bien, on va tomber sur un portail d'annonces. Le deuxième facteur pour lequel nous allons voir un agent immobilier, et celui-ci a augmenté par rapport à l'année dernière, c'est la recommandation. Donc les agents immobiliers aussi ont bien compris qu'ils ne pouvaient pas, il fallait qu'ils travaillent leurs recommandations pour ne pas finalement se tenir sous une emprise de portails d'annonces. Ça, c'est le deuxième facteur qui était très intéressant quand on a eu de l'étude. Mais le troisième, pour rechercher son agent immobilier, c'est le passage agence. Donc pour 19% d'entre eux,
on regarde la vitrine déjà.
Ouais. On va voir la vitrine.
Beaucoup de gens regardent encore les vitrines.
Le fait d'avoir pignon sur rue est rassurant. Voilà, donc c'est ce qu'on a. Voilà, est-ce qu'aujourd'hui, avoir un point central et avoir un point de vente quelque part, oui, il restera.
L'humain avant tout. Mais moi, je me souviens très bien de ce que disait le patron de Century 21, Laurent Vimon, au moment justement du premier confinement, où on parlait beaucoup de digitalisation, et il était effectivement convaincu que ça ferait long feu, qu'il y a quand même, il y a cette nécessité. Et tous après, derrière, se sont évidemment battus pour reprendre les visites, puisqu'on nous avait beaucoup parlé des visites en visio, de la 3D, de machin, etc. Et qu'en fait, rien ne remplace le contact physique, en fait.
C'est l'avenir. En tout cas, on dit tout le temps que parfois le futur appartient au passé. Et j'ai envie de vous dire que les basiques fondamentaux dans l'immobilier, la relation humaine et surtout beaucoup de communication, parce qu'on est rentré dans une France de relance. Que vous fassiez quoi que ce soit, vous allez voir un architecte, il faudra le relancer. Vous allez voir un notaire, il faudra le relancer. Vous allez voir un banquier, il faudra le relancer. On relance tout le monde. Donc maintenant, en fait, celui qui prend les parts de marché, c'est celui qui devance la relance.
Pas mal comme formule.
C'est beau, hein.
C'est ce que l'on retiendra en partie de cette interview. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Jean-David Lépineux, fondateur d'Opinion Système, donc à l'occasion de la publication de ce baromètre de la satisfaction des Français vis-à-vis de l'immobilier, cette même édition. Et merci à vous, Marie-Cœur de Roy, tous les matins sur BFM Business. Vous revenez aussi parfois l'après-midi.
Ah, je suis là quand on a besoin de moi. Parfois le midi avec Sandra, c'est formidable aussi. Il faut tout le temps écouter toujours BFM Business, en fait.
Mobilisable en permanence. Merci à vous deux. Un petit mot quand même des replays, bien entendu, hein, qui vous permettent de revivre toutes les séquences de cette émission sur le site de BFM Business. 10h et bientôt 28 minutes, on fait une très courte pause et on retrouve nos traders pour le match du même nom, Stéphane Sauduteil et Jean-Louis Cussac. À tout à l'heure.
BFM Business, l'émission 100% placement. BFM Patrimoine, Vincent Tourelle.
Et ce match des traders, c'est avec Stéphane Sauduteil, responsable du site technibourse.com, et Jean-Louis Cussac, trader pour compte propre chez Perceval Finance Conseil. Bonjour messieurs, merci d'être avec nous ce matin à 10h31 sur BFM Business. Stéphane Sauduteil, on commence avec vous. C'est poussif ce matin là, on s'essouffle, pour quelle raison?
Parce qu'on est sur cette zone de points hauts, hein, que l'on connaît depuis mi-janvier. Après une petite phase de correction après mi-janvier de 25% de toute la phase de hausse depuis 2023, ben on est reparti tranquillement. On a une avancée un petit peu en crabe, mais ça nous a quand même permis de revenir au contact des points hauts et même mettre en place de légers points hauts supérieurs. Mais on sent que c'est quand même difficile, ça manque un petit peu de catalyseur pour espérer le cran au-dessus. Alors le cran au-dessus, c'est autour des 7200 points, hein. C'est une centaine de points en plus à prendre. Alors est-ce que ça se fera cet après-midi avec un bon indice des prêts à la consommation des ménages en décembre aux États-Unis? Pourquoi pas, mais c'est vrai que les grands rendez-vous, c'est quand même plutôt pour la semaine prochaine avec, bien sûr, la Banque Centrale Américaine et les hausses de taux. Est-ce qu'on aura 0,25 ou 0,50? Si on avait 0,50, là, je pense que le marché serait déçu et on aurait finalement cette phase de correction qui serait peut-être un peu nécessaire quand même, compte tenu de la hausse de quasiment 10% depuis le début de l'année. Mais rien n'est moins sûr. Et puis, on aura aussi les GAFAM, hein, qui vont publier, notamment Amazon, Apple, Google et Facebook, enfin Meta. La tendance reste quand même solide, hein. On peut pas pronostiquer un retour en arrière immédiat. Il faut quand même jouer toujours cette phase de tendance haussière, même si c'est pas toujours facile maintenant d'acheter. Alors, c'est vrai qu'en intraday, on peut toujours acheter autour des 7070, 7080 pour viser, allez, 10, 20, 20, 30 points, mais guère plus, en fait. Donc, Notre métier n'est pas facile à l'heure actuelle parce que le marché s'étrique à la proximité d'une résistance. Donc voilà, on est toujours dans cette un petit peu situation où le marché est tenu par les grosses capitalisations, par le luxe, par Total, par les bancaires, par l'automobile. Donc tout ça en fait constitue un socle pour le moment solide, donc qui empêche les retracements du CAC 40. Et à chaque bonne nouvelle, on a quand même régulièrement des bonnes nouvelles. Eh bien, on essaye de reprendre un tout petit peu d'altitude, sans excès pour le moment. Alors, il faudra peut-être un excès terminal haussier pour en pronostiquer effectivement ou dire qu'on est certainement proche d'un point haut et que derrière, il pourra peut-être y avoir une consolidation. Mais tant qu'on n'a pas cassé les 6950 points, on est toujours dans cette phase plutôt positive sur le marché. Et c'est vrai que la probabilité de monter un petit peu plus haut est plus forte que celle de descendre un petit peu plus bas pour le moment.
Merci Stéphane. Stéphane Sauduteil, Jean-Louis Cussac, Stéphane nous disait à l'instant, c'est pas facile pour nous. Notre métier n'est pas facile. C'est pas facile pour vous non plus en ce moment.
Si, c'est très facile. Puis il suffit de passer son ordre et il se passe rien et on arrive à être fait encore hier. Non, c'est je provoque. C'est pénible, c'est pas fun, c'est pas drôle. Voilà, c'est surtout ça. Mais c'est peut-être ce que voulait dire Stéphane aussi, c'est que voilà, ça, on s'endort un petit peu de temps en temps. Mais c'est bon, le marché, ça fait 7 séances qui hésite, où il n'y a pas de relais. On bute sur le même plus haut qu'il y a donc 8 séances. Et ce qui est incroyable, c'est la résilience. Il y a toujours quelque chose qui fait qu'il rebondit. Il n'y a aucune alerte. À chaque fois, dans la journée, on reste sur des zones de rebond maximum. Et moi, je réitère ce que j'ai dit. C'est-à-dire, tant qu'on ne casse pas 6950, on ne lance pas, il n'y a pas de signal pour le retracement que j'attends. Mais bon, il peut ne pas arriver. Hein, mais pour l'instant, en tout cas, ça fait partie d'un scénario possible. Donc, mais j'attends qu'on ait une indication, quelque chose. Et il y a toujours rien. Depuis ce matin, on a évolué au gré d'LVMH qui a perdu jusqu'à 2,2%, qui a regagné qui a jusqu'à plus 3,1 par rapport au plus bas. Vous voyez, c'est énorme et elle pèse quand même 13,5% du CAC. Donc ce sont des amplitudes de 0,3, 0,4 facilement sur l'indice CAC 40, c'est beaucoup. Et comme hier et les jours précédents, on tente d'acheter sur des replis. Ce matin, c'était jusqu'à 7055, on va dire. On a commencé à 75, au-dessus de 75, au-dessus de 55. À chaque fois, c'est un peu au-dessus qu'on se place. Et ça rebondit. Là, on est à 7114 sur le futur. Il y a quelques points de spread avec les taux d'intérêt par rapport au cash. On attend les banques centrales la semaine prochaine. Bien évidemment, je pense que les marchés vont pas prendre trop d'initiatives. Même cet après-midi, je pense pas il y a pas de raison qu'on bouge beaucoup. La volatilité implicite là sur les options échéances ce soir, notamment sur les SP500, les prix sont normaux, on va dire. Il y a pas de surenchère. Donc le volume, c'est, je vous dis, de la journée, c'est LVMH. Il a fait à peu près 3,5 fois le volume habituel à cette heure-là. Sinon, sur le CAC, on pourrait jouer le double appui dans la zone des 7080-75 si jamais le marché revenait en arrière dans des conditions normales. Et on cherche toujours à acheter. Voilà, il y a vraiment, on attend le petit trou d'air, mais il n'y en a pas. D'ailleurs, c'est comme sur l'activité économique, il n'y a pas vraiment de trou d'air. Celui qui était craint n'est pas encore là. Le dollar, hier, il s'est repris avec le PIB, mais ça n'a pas duré. On est tout de suite revenu dans la zone Eurodoll point haut, pratiquement, autour non loin d'un 0,9. Donc voilà, partout, nous avons des marchés qui sont dans des attentes optimistes. Ça ne change pas depuis des jours, des semaines, des mois. Et c'est pour ça qu'on arrive à coller et à rester autour des 7100 actuellement.
Là, on est en hausse de 0,15%, 7106 exactement. Merci beaucoup Jean-Louis Cussac chez Perceval Finance Conseil et à Stéphane Sauduteil chez Technibourse.com pour ce match des traders.
BFM Business, BFM Patrimoine, la polémique.
Et la polémique, c'est bien entendu avec Nicolas Dose. Bonjour Nicolas.
Bonjour.
Aujourd'hui, vous poussez un cocorico au sens propre, non?
Ah oui.
Au sens figuré. Allez, un cocorico.
Oui, bon, ça fait du bien.
Oui, bon. Une entreprise française, oui, du luxe, publie des résultats, comment dire,
Incroyable. Et c'est LVMH, bien sûr. Enfin, c'est une entreprise qui ferait presque mentir la fameuse formule, les arbres ne montent pas jusqu'au ciel, sauf LVMH. Voilà. Alors, le chiffre d'affaires 2022, les ventes, pratiquement 80 milliards d'euros. Depuis l'arrivée de Bernard Arnault en 1988, les ventes, elles ont fait x32.
Ah ouais.
Le profit en 2022, 14 milliards d'euros. Depuis son arrivée en 88, ça fait x46. Il y a deux marques motrices, Dior et Vuitton. C'est aussi en 2022 que Sephora a acquis la place de première chaîne de distribution de produits de beauté dans le monde. LVMH, c'est la première capitalisation du CAC 40. C'est la seule entreprise en Europe qui vaut plus de 400 milliards en bourse. Depuis l'arrivée de Bernard Arnault en 1988, la capitalisation, la valeur boursière fait x69. C'est assez extraordinaire quand même.
Ouais, c'est unique.
Hein. C'est extraordinaire les chiffres de cette entreprise.
Comment LVMH fait-il pour résister dans un environnement, plus que, c'est mieux que résister d'ailleurs, hein, ouais. Pour publier de tels chiffres dans un environnement de plus en plus incertain, quand même, faut le dire. Hein.
En plus, c'est la vraie vie et c'est le vrai commerce LVMH. C'est pas de la spéculation. Il y a les deux armes absolues. Vous avez des produits excellents, l'excellence des produits. Vous avez des marques avec une puissance incroyable. Et ben quand vous avez deux armes comme celle-là, vous avez la capacité de faire ce que vous voulez avec vos prix. Vous pouvez vous permettre de monter vos prix plus que l'inflation. Vous avez le pricing power, comme on dit en anglais. La capacité de continuer à vendre à peu près à n'importe quel prix. Attention, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des nuages possibles. Hein. Notamment, le marché a beaucoup freiné en fin 2022 en Chine parce qu'il y avait la pandémie qui provoquait des contraintes économiques très fortes. Et puis quand même la parité euro-dollar. On en parle souvent, mais là, l'euro est en train de remonter. Un euro qui remonte, ça peut compliquer un petit peu le business.
Mm-hmm. Bon, ça c'est pour les chiffres, oui.
Notamment pour comprendre dans le monde entier. Mm-hmm.
Ça c'est pour les chiffres étincelants de LVMH. Mais quelle est la contribution réelle d'LVMH à l'économie française? Parce que c'est là qu'est la polémique en fait.
La polémique est toujours là. Et c'est vrai que LVMH c'est l'incarnation de l'entreprise que l'on aime détester quand on aime détester le CAC 40. Et Bernard Arnault c'est l'incarnation du milliardaire que l'on aime détester comme on aime détester les milliardaires. C'est systématiquement Bernard Arnault est cité en tête de gondole de tous les cas de réaction d'hostilité à l'économie de marché. Ouais. Et donc les chiffres sont très clairs. Sur les sociétés 2022, 2,5 milliards d'euros par LVMH en France. Vous ajoutez TVA, cotisation sociale, 4,5 milliards d'euros de prélèvements obligatoires versés par LVMH sur le sol français en 2022. C'est l'équivalent du budget de la justice, de la culture. LVMH, premier créateur d'emplois en France en 2022. 15 000 postes créés et sur 40 000 dans le monde. Et d'ailleurs, hier, Bernard Arnault a défendu l'impact fiscal et l'impact social de son groupe, renvoyant à ses détracteurs que, selon lui, beaucoup ne connaissent pas bien l'économie. Alors, cette phrase, évidemment, a été assez mal reçue. Elle entre pas mal en résonance avec la fameuse sortie de Marine Tondelier, la nouvelle patronne d'Europe Écologie des Verts, qui a dit qu'il souhaitait une France sans milliardaires, les qualifiant de vampires, et affirmant que ce n'était pas les entrepreneurs qui créent les emplois, mais nous, le monde du travail. Est-ce que les gens comprennent ou pas l'économie? On est peut-être en droit de se poser la question. J'ai entendu encore cette semaine, c'est pas la peine de repousser l'âge de départ à la retraite, on n'a qu'à payer les retraites avec l'argent du CAC 40. En fait, je crois pas que ce soit de la non-compréhension de l'économie. C'est je comprends, mais je refuse, je n'accepte pas. Je pense que c'est plus ça l'histoire. Après, on peut avoir un débat sur la compréhension de l'économie, mais on a quand même des chiffres qui sont censés normalement nous réconcilier avec LVMH plutôt que d'entretenir le rejet systématique de cette entreprise et de son président depuis maintenant 34 ans.
806 euros l'action LVMH au moment où vous parliez. Deux autres entreprises françaises marquent l'actualité du jour. Nicolas, on va terminer avec ça.
Vite. Ouais. Airbus annonce 13 000 embauches en 2023. C'est un record pour Airbus qui se porte bien au moment où Boeing vient de signer sa quatrième année de perte aux États-Unis. Et puis ST Microelectronics qui a doublé ses profits en 2022, 4 milliards de dollars. C'est la plus belle progression du CAC depuis le mois de janvier, au moment où Intel, le grand concurrent américain, a révisé à la baisse ses résultats du quatrième trimestre et aussi ses résultats à venir du premier trimestre 2023. Voilà, encore deux entreprises européennes, françaises, franco-italiennes pour STMicro, mais enfin voilà, qui cartonnent et ça fait du bien.
Plusieurs cocorico en fait, aujourd'hui. Merci beaucoup pour bien terminer la semaine. Merci Nicolas Dose pour cette polémique.
BFM Patrimoine. L'émission 100% placement sur BFM Business.
On va parler bourse à présent avec nos deux invités. François Meunier, directeur de la rédaction d'Investir. Bonjour François.
Bonjour.
Également dans ce studio, Sarah Thirion qui s'installe à peine. Bonjour Sarah, stratégiste action chez Tipeee iCap. Je vous laisse vous installer tranquillement. La question que vous posez, ou plutôt que l'on se pose en ce moment, François, c'est jusqu'où la hausse de la bourse ? C'est impressionnant, hein, c'est... malgré tout ce qui se passe. Ça monte, même si ça s'essouffle un petit peu aujourd'hui. Ça devient presque impressionnant. Comment pouvez-vous l'expliquer, tout simplement ? Parce qu'il y a quand même pas mal de nuages à l'horizon.
Oui, il y a beaucoup de nuages à l'horizon, mais il y a deux façons de voir les choses. D'abord, vous avez le camp des pessimistes. Les pessimistes, eux, ils se disent, c'est incroyable, on a à nouveau un marché, un CAC 40 qui est quasiment proche de son plus haut historique, alors que on a une guerre en Ukraine, on a des exportations de pétrole et de gaz russes à destination de l'Europe qui sont à l'arrêt, on a eu une forte hausse de taux, et la hausse de taux, elle va durer, on a toujours une forte inflation, et on a un ralentissement économique qui arrive en 2023. Donc ça, c'est les pessimistes qui disent finalement, ce phénomène, c'est incroyable. Et puis, vous avez le camp des optimistes qui disent, regardez le flux de nouvelles qui sont extrêmement positives. On a eu des résultats au troisième trimestre qui étaient extrêmement solides, et on a quand même une première vague de publication de résultats annuels qui sont très encourageants. On a finalement la hausse de taux, elle est plutôt derrière nous que devant nous, l'essentiel du travail a été fait. On a une inflation avec des signes qui montrent qu'il y a un véritable ralentissement, en tout cas, on a peut-être probablement atteint le pic il y a quelques semaines, voire un mois. Et puis, la récession, elle semble être en passe d'être évitée. On a eu des chiffres très encourageants au cours du mois de janvier. Et puis, on a là enfin la réouverture de la Chine va probablement donner un surplus de croissance à l'économie mondiale. Donc, vous avez deux camps qui s'affrontent. Le camp des optimistes, très étonnés, compte tenu des nuages que vous évoquez, et puis le coin des optimistes qui disent l'horizon, il y a du soleil et les nuages, ils sont pas si tenaces que ça. Et donc en fait on se rend compte qu'en bourse, ce qui compte, c'est le flux de nouvelles. Et les flux de nouvelles, il a tendance à basculer du camp des positifs parce que semaine après semaine, on trouve à chaque fois des bonnes raisons d'avoir des indices qui progressent. Et cette hausse, elle se fait plutôt en douceur. Il n'y a pas eu d'euphorie ou de journée où on ne comprenait pas la hausse de tel ou tel titre ou tel indice. Ça se fait plutôt en bon ordre, ce qui fait que le verdict, c'est que le flux de nouvelles, c'est ce qui fait la tendance.
Sarah Thirion, vous faites partie de ceux qui sont étonnés par cette remontée insolente de la bourse, quels que soient les indices d'ailleurs.
On m'a appris à ne jamais être étonné, ça c'est très important. le louche. Petite référence quand même. Oui. On suit ce flux de nouvelles aussi, donc on connaît le postulat, on avait cette inflation, on avait des banques qui faisaient le whatever it takes aussi pour répondre à leur mandat, qui, je le rappelle, est toujours fondé sur l'emploi et l'inflation, mais on a des banques centrales qui sont aussi attentives, non pas à la réaction des marchés à cette hausse de taux, mais en tout cas aux données macroéconomiques, et on a des indicateurs qui montrent jusqu'à présent effectivement une décélération de cette inflation, et d'autre part effectivement des indicateurs macroéconomiques qui nous prouvent que on a un ralentissement, mais qui se fait en douceur. Les commandes de biens durables de décembre aux États-Unis l'illustraient très bien hier. Donc on verra ce que donnent les prochaines indications macroéconomiques. On a de grands rendez-vous la semaine prochaine avec les banques centrales. Je pense que il est possible que la Fed fasse un 25 bips et dise, comme la Banque du Canada, on va prendre le temps de regarder ce que le travail qu'on a déjà fourni sur les taux génère dans l'économie réelle pour modérer ou discuter de l'ampleur en fait du risque du relèvement des taux à venir. La Banque Centrale Européenne aura peut-être plus de mal à être un peu plus accommodante. Donc moi je pense qu'on sera plutôt sur un 50 bips. Mais comme le disait François, il y a toujours cette peur de manquer la bonne nouvelle. Et la bonne nouvelle, je pense à mon sens, qu'elle réside, ou la bonne ou la mauvaise nouvelle, elle résidera en Chine cette année. Ah. Ouverture réussie, oui. Ouverture ratée.
S'ils
ratent leur ouverture, le monde va plonger en récession, ça c'est certain. Si la Chine réussit sa réouverture avec une immunité collective qui va aller très vite finalement, parce que ils n'en avaient pas d'immunité, parce qu'ils n'ont pas de vaccin, etc. Donc finalement je pense que dans le courant du deuxième trimestre ils peuvent avoir atteint l'immunité collective, la Chine peut très bien faire 5% de croissance du PIB cette année et donc sauver finalement l'économie mondiale, puisqu'on a toujours des économies qui sont maintenant totalement
interconnectées. Avec peut-être un surcroît d'inflation, on entend dire
avec,
que la réouverture de la Chine, là,
évidemment,
c'est
le corollaire, c'est
de l'inflation quand même qui revient.
Ouais. Et que donc, du coup, ça pousserait les banques centrales du monde développé à relever à nouveau leur taux.
Bon. Quels secteurs, François, sont le plus recherchés en ce moment?
Presque tout marche, mais ce qui caracole en tête, on a d'abord sur les cycliques, qui dit que finalement, avec une rouverture de la Chine, la récession elle sera moins forte ou le ralentissement économique sera moins prononcé. On a le tourisme, parce qu'on se dit, voilà, à partir de cet été, on va avoir des Chinois qui vont voyager, qui vont redécouvrir l'Europe, les États-Unis, etc. Ouais. Donc, tout ce qui est lié au tourisme, hôtellerie, compagnie aérienne, aéroport, logiciel de réservation, etc. Ça fonctionne très très bien. On a le luxe, bien sûr.
On en a une illustration là.
Si la Chine va mieux, eh bien on peut imaginer que la consommation des produits de luxe vont connaître encore un nouveau succès.
Des produits de luxe achetés en Europe, aux États-Unis, hein. Non.
Oui, déjà,
et en Chine,
c'est surtout en Chine. En Europe, les produits luxe, on l'a vu avec les publications de LVMH, la croissance, elle est vraiment au rendez-vous. Aux États-Unis, ça marche très très fort. Et maintenant, on attend une vraie reprise en Asie et notamment en Chine. Mmh. Et puis, vous avez après le secteur parapétrolier, où là, on voit que si jamais la Chine se mettait à avoir un surplus de croissance, il va falloir trouver de l'énergie. Et donc, les investisseurs se disent que les pétroliers qui vont annoncer des bénéfices records au titre de 2022 dans quelques jours, eh bien, ils vont probablement investir une partie de ces bénéfices encore dans le pétrole et le gaz.
Ça fait longtemps qu'on attend qu'ils investissent là. Hein.
On attendait parce que ils avaient d'abord pas les bénéfices forcément au rendez-vous et puis surtout ils étaient surtout dans la transition énergétique. Mmh. Et là on voit qu'ils vont peut-être probablement réinvestir dans le pétrole et le gaz parce qu'il y a une forte demande.
Sarah, sur les secteurs qui tirent le mieux leur épingle du jeu.
Bah, c'est exactement ça. On a effectivement le camp des gens qui ont envie de croire que finalement la croissance mondiale ne va pas tant souffrir que ça parce que la Chine va sortir.
On va éviter la récession.
Donc, exactement. Donc, on joue des cycliques. On a des gens qui pensent que on arrive au bout de cet acharnement sur les taux et qu'on va être sur des...
Ça a été un acharnement.
Une moindre restriction monétaire et donc, du coup, qui se replace sur des valeurs de croissance. Et nous, on a quand même des flux et des gérants qui cherchent des idées de sociétés qui sont en retournement, qui sont en train de recréer une histoire un peu indépendamment du contexte. Et pour illustrer ce propos, oui. Pierre et Vacances, par exemple, voilà, plus 37% depuis le début de l'année, pour une société qui s'est recréée vraiment une histoire, qui s'est recapitalisée, qui a changé de gouvernance. Et donc, voilà, les gérants cherchent aussi des histoires qui ont été un peu abandonnées et qui ont quelque chose à écrire.
Après, les secteurs, François, les zones géographiques, est-ce qu'il est préférable d'investir en France, en Europe ou aux États-Unis?
Ce qu'on a vu là, c'est qu'il y a eu, en ce début d'année, un regain d'intérêt pour l'Europe. Parce que parmi toutes les nouvelles dont on vient de dresser la liste, il s'avère qu'en Europe, on avait une grosse inquiétude en décembre, c'était d'avoir une rupture d'approvisionnement en gaz, en électricité, et que ça crée un blackout total. Et là, on a été finalement... La bourse, finalement, c'est peu de choses parce qu'on est sauvé par le climat.
Et oui.
L'hiver doux.
Par la météo, on va dire.
Par la météo. L'hiver doux fait que finalement, on parle même d'avoir trop de stocks de gaz en France.
Ah oui.
Donc, il n'y a pas de rupture. Il n'y a pas de risque d'avoir des sites qui ferment en Allemagne ou en France. L'hiver devrait bien se passer. Et là, le fait qu'il y ait ce ouf de soulagement, eh bien, on a des indices européens qui battent Wall Street, hein, parce qu'en gros, on a un Dow Jones qui fait plus 2 quand le CAC 40 et le DAX gagne près de 10%.
Ouais.
Et puis après, la bonne surprise, finalement, c'est ce rebond de la tech. La tech qui avait mal commencé les premières séances de 2023. Et là, on voit qu'il y a une vraie accélération du Nasdaq. Et le Nasdaq, maintenant, fait quasiment jeu égal avec les marchés européens. Parce qu'on
Tesla,
se dit,
c'est impressionnant. Hein.
Tesla, voilà, ouais. ça repart très très fort. On a vu une bonne semaine chez Microsoft. Donc on voit que le regain d'intérêt pour la tech revient parce qu'on espère que le 1er février, la Fed va annoncer que la hausse des taux, elle est plutôt derrière nous.
Dans quel marché? France, Europe?
Je pense qu'il faut être extrêmement équilibré parce que il y a des bonnes nouvelles à faire sur la tech parce que la tech a quand même connu une très mauvaise année l'an dernier. Et puis, il y a encore de la value à travailler en Europe. Donc, on a, avec cette répartition géographique, là aussi des thématiques. La thématique value en Europe, la thématique tech aux États-Unis. Et puis après, vous avez la thématique à l'intérieur de l'Europe où vous avez plutôt des matières premières à Londres. Vous avez plutôt du luxe en France. Vous avez plutôt des banques en Espagne et en Italie. Et puis, vous avez de l'industrie en Allemagne.
Sarah Thirion, sur quel aspect vous voulez...
L'Europe, en fait, a quand même connu 49 semaines consécutives d'outflow. Et la semaine dernière, on a eu les premiers inflows des allocataires globaux sur l'Europe.
C'était l'Ukraine qui faisait peur aux investisseurs.
Exactement. Donc, on a quand même cette dynamique de flux qui peut nous aider. Si la Chine réouvre correctement, ce qui porte le cycle, ben, on est plutôt bien placé en Europe parce que par composition, par essence, nos économies sont plutôt manufacturières. Peut-être l'Europe, d'autant que on a un euro-dollar qui est en train de s'ajuster aussi. Donc ça à surveiller. En tout cas pour les valeurs qui sont pas notoirement exposées sur le dollar.
Trop l'euro.
Donc voilà, ça peut être ça, mais moi j'aime plutôt bien toujours les États-Unis et je comprends très bien le différentiel de valorisation entre les États-Unis et l'Europe. Et effectivement, si on est vraiment un allocataire global et qu'on croit en la réouverture de la Chine, bah, il faut probablement regarder dans cette direction. Donc équilibré comme François.
Bientôt 1,10 l'euro-dollar là, 1,09, c'est quand même assez élevé pour l'euro. Les valeurs moyennes dans tout ça, François?
Ben, elles sont un petit peu oubliées. Hein. On sait qu'elles ont fait une mauvaise année l'an dernier. Là, ça redémarre un peu calmement, mais sûrement, hein, parce que la hausse est de 5%, le CAC 40 fait 10, donc ça progresse, on va dire, deux fois moins vite. Ça progresse deux fois moins vite parce qu'il y a moins de flux. On est sur des marchés vraiment de flux, et le fait que la gestion passive, la gestion liée aux ETF, fait que on cherche davantage des grandes capitalisations pour mettre dans les qui reflètent les compositions des indices que des sociétés de taille modeste. Donc il y a un vrai problème de flux. Après, le fait que il y a moins de liquidité sur ces titres-là, on rentre dans un cercle un petit peu vicieux parce qu'il y a des gérants qui disent à rentrer sur ces valeurs en disant si jamais j'ai besoin de sortir, je risque de faire des décalages de cours. Donc il y a ce désamour qui commence à perdurer encore en 2023 par rapport à 2022, même si on le voit, on est quand même sur des marchés qui montent et les valeurs moyennes en profitent, mais elles progressent un peu moins vite.
Sarah Thirion, ça peut changer ce désamour?
Le problème de la small et de la mid-cap, c'est que c'est très corrélé à l'économie domestique. 70% de leur chiffre d'affaires est domestique. Donc, si on a une small et mid-cap européenne, elle est dépendante à la fois de la macroéconomie européenne et aussi des intentions de la Banque Centrale Européenne, qui pour l'instant doit rester restrictive, même si on a eu un hiver plus doux. En revanche, ce qui est très important, c'est qu'il y a eu un désamour qui a été assez long pour les small et mid, et qu'aujourd'hui, dans les attentes du consensus, en termes de BPA, elles sont beaucoup plus sévères que pour les large. Les attentes sont beaucoup plus sévères que pour les large cap et intègrent déjà un PIB à zéro pour les small et mid.
Ah oui.
Donc, je pense qu'il faut commencer à regarder, évidemment avec beaucoup de vigilance dans ses choix, mais je pense qu'il est peut-être temps de reconsidérer quand même un petit peu les small et mid.
Vous citiez tout à l'heure Pierre et Vacances, c'est une mid.
C'était un exemple parce que je voulais choisir une situation à retournement, mais voilà, il faut reconsidérer probablement un peu la mid. Et puis on a aussi des small et mid cap qui sont des globales, des cycliques globales, si vous regardez Mersen qui a publié d'excellents résultats, un excellent chiffre d'affaires hier soir, c'est une société qui est complètement globale. Donc
Mersen,
Mersen qui est spécialisée dans qui maintenant fait 50% de ses activités dans les énergies renouvelables et puis le reste, les industries de procédés.
Dans une bonne allocation des small et mid, ça va représenter quoi? Quel pourcentage d'un portefeuille?
Une bonne allocation, on dirait 25%.
À 25% quand même?
Oui.
Parce que actions. Hein.
Dans un portefeuille actions, oui, parce qu'il y a quand même des vraies valeurs de croissance. On trouve que la croissance, elle est aujourd'hui mal valorisée, mais le marché peut changer d'avis. D'ailleurs, il change souvent d'avis. Hein. On a encore eu, il y a quelques jours, par exemple, Katana qui a dévoilé ses comptes trimestriels avec une hausse de près de 35% de son croissance, après une progression annuelle de 46%. Donc là, on est dans les bateaux, on est dans la plaisance, et on a un carnet de commandes sur plusieurs années, mais des niveaux de valorisation quasiment liés à la value et pas des valeurs de croissance. Donc il y a des opportunités, il faut les travailler, mais il faut être patient parce que on le voit qu'il y a une mode à se dire il faut plutôt acheter des grandes que des petites. Mais la vérité, c'est que sur plusieurs années, c'est la croissance bénéficiaire qui fait un cours de bourse, et si vous avez une croissance bénéficiaire solide, récurrente sur une valeur moyenne, ça finira par payer.
François, nos téléspectateurs ont vu la une d'Investir, mais pas nos auditeurs. L'heure des choix, expliquez-nous un petit peu.
Bah oui, parce que là, on rentre en pleine période de publication des résultats annuels. Et on l'a vu, ça provoque de forts décalages de cours. Donc, il faut bien choisir ces valeurs. En amont, parce qu'on sait qu'il y a, par exemple, peut y avoir des valeurs qui vont plutôt surprendre agréablement. Et puis, autrement, bah, si jamais on est déçu, il ne faut pas hésiter à sortir lors de la publication. On a vu les décalages de cours. Hein. ST Microelectronics, ça a pris 8%. Sartorius Stedim, ça a pris 7%. Ça décale beaucoup lorsque la société dévoile ses résultats annuels et puis surtout ses perspectives pour l'exercice 2023.
Voilà pour la une d'Investir cette semaine. Et puis, puisqu'on parle de une, hein, je vous rappelle qu'aujourd'hui sort en kiosque le supplément patrimoine des Échos avec à la une les meilleurs placements pour 2023. Un supplément en partenariat avec BFM Business. Sarah, François, merci beaucoup. On se retrouve dans moins d'une heure, dans trois quarts d'heure environ, pour répondre à toutes les questions de nos téléspectateurs et de nos auditeurs. Et puis, vous-même, hein, si vous voulez revivre les meilleurs moments de cette émission, bien entendu, il y a notre site bfmbusiness.com pour tous les replays. Il est bientôt 11h sur BFM Business. On se retrouve dans un très court instant pour la deuxième heure de cette émission BFM Patrimoine. À tout de suite.
BFM Patrimoine, l'émission 100% placement sur BFM Business.